Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. » Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà un épisode qui ne manque pas de piquant. Jésus, quelques instants plus tôt, a annoncé sa passion. Il suffit de se reporter dans l'Évangile selon saint Marc, toujours au chapitre 10. Et voilà que Jacques et Jean, vous savez, ces deux frères, Jean l'évangéliste, et puis Jacques son frère, qui sera d'ailleurs le premier des 12 apôtres martyrs, sera décapité en 44. Jacques et Jean demandent à Jésus, voilà, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. C'est une façon de parler à Jésus qui est tout à fait clair. Hein. Ce que nous allons te demander, nous voulons que tu le fasses. Ah bon, et quoi donc ? Dit Jésus, qui va au renseignement. Et il ne demande pas moins que de siéger à droite et à gauche de Jésus dans sa gloire, comme vous avez entendu. Et alors Jésus leur dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, vous n'y êtes pas, vous ne vous rendez pas compte, il y a méprise, vous n'avez pas compris. Puisque Jésus a parlé de sa passion et que pour parvenir à la gloire de la résurrection, il lui fallait d'abord passer à travers la souffrance et la mort. Et Jésus appelle cela une coupe à boire, la coupe que je vais boire. Pouvez-vous la boire ? Ou encore il appelle ça un baptême, le baptême dans lequel je vais être plongé. Pouvez-vous le recevoir ? Donc Jésus, en employant ces mots, fait des allusions assez précises. Baptême, ça veut dire plongeon, ça veut dire être plongé dans la souffrance et dans la mort, dans le péché des hommes. La coupe, ça évoque quelque part dans des passages de l'Ancien Testament qui parlent de la colère de Dieu. Et Jésus dit que siéger à sa droite et à sa gauche, alors est-ce une allusion à ceux qui seront crucifiés à droite et à gauche ? Est-ce une allusion à autre chose que nous ne connaissons pas et qui se passe dans la gloire de Dieu ? Nous ne savons pas, mais Jésus dit, voilà, il n'a pas la main sur cette question, ça regarde son Père et c'est déjà préparé. Donc les apôtres sont déconfits, mais quelque part ils nous donnent la mauvaise façon de prier finalement. La mauvaise façon de prier, ça consiste à vouloir imposer à Dieu sa demande en voulant plier Dieu et en lui demandant de donner la réponse qu'on attend, s'il vous plaît. Et c'est pas que Jésus leur fasse un grand reproche, mais il leur dit, vous êtes à côté de la plaque, vous n'avez pas saisi. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander comme ça, et la volonté de Dieu, ça ne se gouverne pas comme ça à coup de demande. Et même si on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières, de demandes, et beaucoup de supplications, et beaucoup de sacrifices, que sais-je, enfin, c'est pas pour autant qu'on va plier Dieu, la volonté de Dieu, pour qu'elle soit selon ce qu'on aurait souhaité. Donc, un mauvais exemple de la prière, et cependant, une démarche qui leur permettra d'aller plus loin, puisque Jésus va leur dire, eh bien, pouvez-vous me suivre? Alors, ils sont complètement inconscients, puisqu'il y a une méprise, on ne sait plus de quoi on parle, et ils disent, oui, 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 sans problème. Et Jésus leur dit, bon, ça c'est accordé. Mais ils ne savent pas ce qui va se passer, évidemment. Voilà. En tout cas, Jésus dit qu'il est venu à travers tout ça comme serviteur. Il emploie un mot qui est le mot rançon, qui peut-être doit être vraiment bien interprété, parce que dans la Bible, il n'a pas le sens que nous lui prêtons habituellement comme une sorte de monnaie d'échange pour permettre de libérer quelqu'un. Jésus dit, je suis venu donner ma vie en rançon pour la multitude, et le mot rançon dans la Bible signifie libération. Donc je suis venu donner ma vie pour libérer la multitude de l'emprise, de la seconde mort et de la mort corporelle et du péché. On est, vous le sentez bien, à travers beaucoup de passages de l'Évangile, dans le contexte de la passion et de la résurrection de Jésus. C'est toujours sous-jacent parce que Jésus essaie de faire comprendre quel Messie il est venu accomplir, quel type de Messie, de messianisme. Et en première lecture, on a entendu un passage très bref du livre d'Isaïe. Il y a dans le prophète Isaïe 4 passages tout à fait précis, qui dessine le portrait ou l'image d'un serviteur de Dieu qui est annoncé comme devant venir, un serviteur de Dieu qui sera vraiment humilié, maltraité, broyé par la souffrance, et qui cependant donnera sa vie pour justifier des multitudes. C'est ce qu'on a entendu dans la première lecture, broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il aura une descendance, il prolongera ses jours. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Vous savez, c'est le passage qu'on entend le Vendredi Saint dans la liturgie catholique en première lecture, Isaïe chapitre 52 et 53, où on a une magnifique prophétie du Christ broyé par la souffrance sur la croix. Donc la liturgie nous propose en résonance à l'Évangile ce passage du livre d'Isaïe, tandis que la seconde lecture, qui n'a pas de rapport direct, puisqu'on lit en ce moment la lettre aux Hébreux de façon suivie, nous dessine quand même l'image d'un grand prêtre, par comparaison au grand prêtre juif, qui devait d'abord offrir des sacrifices pour ses propres péchés, avant d'intercéder pour le peuple. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, parce que vraiment, il a été éprouvé en toutes choses, et il nous ressemble, excepté le péché. Et c'est Jésus, lui qui a traversé les cieux. Et avançons-nous donc avec assurance devant le trône de sa grâce, de la grâce, pour obtenir miséricorde. On est toujours dans cette perspective de la passion et de la résurrection et de la grâce, de la miséricorde qui est accordée à tout homme. C'est le message de cet évangile aujourd'hui. Avons-nous de grands désirs? C'est aussi la question que ça me pose personnellement quand on voit ces deux apôtres qui, tout de même, avait une certaine ambition, même si elle était mal placée. On peut se poser la question, avons-nous quand même l'ambition de devenir saint, de vivre au plus près de l'Évangile? Avons-nous ce grand désir au fond de notre cœur? Et acceptons-nous de cheminer et de prendre les moyens pour cheminer dans ce sens? C'est la question que nous posent Jacques et Jean. Dans les autres évangiles, c'est même une démarche qui a été faite en famille, parce que c'est leur mère qui s'approche de Jésus et qui pose les questions à Jésus. Ils ont été poussés par derrière. Il y avait des ambitions mal placées, et puis en même temps, Jésus recadre cela en disant ben, « ça se passera dans tel et tel contexte, et vous aurez à vivre, à participer à ma passion pour entrer dans la gloire ». Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir accueillir le chemin qu'il nous donne à chacun, comme notre chemin de vie, c'est ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui dans la société, c'est mon chemin de vie. Mais nous chrétiens, il faut dire notre chemin de sainteté. Le Seigneur a pour nous un chemin, pour chacun, il nous demande de le parcourir et il nous donne la nourriture pour le vivre. Rendons grâce au Seigneur.